Avec vous, on s'est bien amusé.
Chase you out of earth.
Il est 20h03 et tout de suite retrouvez votre nouvelle émission de Génération Sport. Bonsoir tout le monde, bienvenue pour cette nouvelle émission de Génération Sport, émission qui sera légèrement plus courte que d'habitude. On ne sera là pour qu'une demi-heure seulement, voilà, on se quittera vers 25h30, le temps de parler pour nous de Coupe du Monde, parce que le coup d'envoi c'est jeudi, avec ce match opposant le Mexique à l'Afrique du Sud en ouverture. La France rentrera contre le Sénégal le 16 juin à 21h, voilà, pour ce qui est du petit programme à ce niveau-là. On parlera que de ça, à mon avis, si on a le temps de parler d'autre chose, on parlera peut-être de NBA ce soir, parce que avec moi, j'ai oublié de te présenter, pardon, c'est Mathéo. Salut Mathéo.
Salut Faustin, bonsoir à tous. Écoute, ça va très bien, effectivement, on aura peut-être le temps de parler 3-4 minutes, voilà, s'offrir, rapidement. Voilà, un petit sursis NBA parce qu'il s'est passé beaucoup de choses quand même, cette nuit, ce matin. Mais sinon, non, très content. Effectivement, j'ai moins deux avant la Coupe du Monde, donc c'est fou.
On y est.
C'est ça, et donc beaucoup de choses à dire sur cette Coupe du Monde quand même.
Tout à fait. On va commencer directement dans le vif du sujet. Pas trop de sommaire à faire ce soir. Coupe du Monde, nouveau format. Au format, c'est la première, ça va durer plus longtemps, plus de matchs, avec aussi pour nous malheureusement des horaires décalés.
Des horaires un peu à la con. Ouais,
ouais, c'est ça. Fan de NBA, on a l'habitude, mais bon, pour les gens qui suivent le foot, c'est des horaires peu habituels de regarder des matchs à minuit, 2h du mat, 3h du mat, je crois, il me semble.
Ouais, 3h, bah, sur même dès le début, il me semble, parce que les premiers horaires, c'est genre 21h-3h, 21h-3h, et puis après ça se débride, je crois.
Donc voilà, en tout cas, la France, il me semble, joue tout le temps à 21h, sauf un match qui joue,
ouais, de mémoire,
joue à 23h.
Ouais.
Il me semble que c'est ça aussi de mémoire. Voilà, donc ce nouveau format qui va changer pas mal de choses, avec des 16e de finale. Déjà, donc une compétition des phases éliminatoires plus longues, plus dures. A priori, il faudra être plus constant et plus solide physiquement pour durer dans le temps. On va directement parler de la France. Ce que je te propose, ce qu'on va voir, jusqu'où on espère que cette équipe de France peut aller. On va déjà parler de la prépa. Il y a eu deux matchs pour cette prépa. Il y a eu la défaite contre la Côte d'Ivoire 2-1. On a vu une grosse différence. Moi, j'ai trouvé, pour avoir vu le match, entre la première et la seconde période. Voilà, sûrement dû aux changements effectués. Il y a eu 10 changements en tout, faits par Didier Deschamps sur la rencontre. Donc, tous les joueurs de champ ont changé. Il n'y a que le gardien qui est resté finalement. On a vu Cherki briller avec notamment ce but. Pas pour te
magnifique,
mettre,
magnifique. Hein.
Voilà, et le deuxième match, c'était contre l'Irlande du Nord. C'était hier soir. Victoire 3-1, adversaire plus faible. Et on a eu une domination française plus concrète, ce à quoi on s'attendait, le triplé de Michael Olise qui fait évidemment parler.
Je m'attendais moins, ouais, je pense.
Ouais, je pense aussi, hein, surtout avec le dernier but qui est tout simplement magnifique, une enroulée du pied gauche vers la lucarne opposée.
Même le deuxième, hein.
Ouais, le deuxième,
c'est vrai, je trouve qu'il est beau aussi, frappe, quand même.
Ouais. Pareil, deux buts de l'extérieur de la surface.
Pas le deuxième.
Pas le deuxième, oui.
Ouais, il est juste à l'entrée, quoi. Enfin, okay,
tant pour moi. Bon, en tout cas, au moins, hein, c'est déjà pas mal. Qu'est-ce que t'as pensé de cette prépa équipe de France, pour commencer?
Bah, moi, j'ai envie de dire que c'est une prépa équipe de France normale, quoi.
Ouais, c'est-à-dire
que c'est un peu moyenasse, bon, voilà. Effectivement, je pense que c'est pas porteur d'espoir, mais comme avant chaque Coupe du Monde. Et après, moi, c'est un peu le défaut que je donnerais à cette équipe de France depuis plusieurs années par rapport au vivier qu'on a de joueurs. C'est tout simplement que la production de jeu l'équipe de France sous l'ère Deschamps est pas folle, non, pas hyper convaincante, je trouve. Et du coup, ça donne lieu effectivement à des prépas comme ça qui sont pas les prépas que tu dois faire quand t'as un groupé. Alors, j'ai pas vu la prépa de l'Espagne, par exemple, mais je
l'Espagne
pense que
il y a
moins de doute. Alors, je crois qu'il y a un nul contre
l'Irak.
Ouais.
Et j'ai celle de l'Irak, donc je sais pas celle de l'Espagne, mais ouais, nul contre l'Irak, où l'Irak met un but de fou.
Et puis c'était pas la même équipe d'Espagne aussi, quoi.
Non.
C'est ça aussi le truc, c'est que l'équipe de France contre la Côte d'Ivoire, effectivement, alors la première mi-temps, elle est pas trop mal. Je trouve qu'elle est pas non plus hyper convaincante. Après, c'est une grosse équipe de la Côte d'Ivoire aussi.
Ouais.
Moi, je trouve que c'est quand même un bon indicateur sur cette Coupe du Monde. On va en parler après, qui, à mon avis, va être remplie de surprises aussi. Je pense que les équipes africaines ont beaucoup à jouer dans cette Coupe du Monde, avec effectivement des jeux très défensifs, très physiques, qui peut permettre justement de durer. On y reviendra tout à l'heure aussi en parlant du Sénégal, forcément.
Tout à fait, ouais.
Mais pour revenir sur la prépa, moi, rien d'étonnant. Pour le coup, effectivement, des hauts très très hauts, des bas
un peu plus bas.
Ouais, voilà. Enfin, c'est-à-dire que on a des phases où effectivement, parce qu'on a un quatuor offensif qui est quand même assez impressionnant.
Peu importe les quatre joueurs qu'on met, ce sera quand même.
C'est ça. Il y a forcément des moments où ça va marcher. Et je pense que ça va marcher très longtemps pendant la Coupe du Monde. Mais effectivement, derrière, c'est pas super convaincant. Alors, le milieu de terrain n'est pas convaincant sur le papier. Ça, déjà de base, on le sait. Maintenant, je trouve que la défense, sur le but notamment de l'Irlande du Nord hier. C'est quand même assez marquant qu'on ait cette défense où t'as deux joueurs qui sont comme ça en ligne, mais assez espacés. Et puis je crois que c'est Upamecano qui revient de l'attaque. Enfin, ça n'a aucun sens.
Ouais,
quoi.
C'est assez confus.
C'est voilà. Donc je pense que ça va être très compliqué défensivement la Coupe du Monde, un peu à l'inverse de ce qu'on avait fait à l'Euro finalement.
Ouais.
Donc après, ça peut donner du spectacle.
C'est ça. On verra bien ce que donnera cette équipe de France. Moi, ce que j'ai trouvé aussi sur la défense, c'est que globalement, on a des arrières qui montent beaucoup. Un peu moins avec Koundé, plus avec Malo Gusto. Et c'est ça qui peut un peu pêcher avec ce... Enfin, qui peut à la fois pêcher, mais à la fois apporter de bonnes choses, qu'on a un milieu qui est peu créatif. Mmh. On essaie vite de trouver des Cherki, des Olysée assez bas sur le terrain, parce qu'on a peu de relais milieu de terrain, et ce relais est parfois fait par les ailiers, mais du coup, ça peut après pêcher sur la défense.
Oui, effectivement, et puis le problème aussi à ce niveau-là, c'est qu'on n'a pas de ratisseur comme on pouvait avoir à l'époque avec Kanté, qu'on a plus du tout aujourd'hui. Je pense que et Rabiot et Manu Koné, qui sont pressentis un peu pour être les deux titulaires, ou Tchouaméni aussi, mais qui m'a pas convaincu sur la prépa, mais qui sera peut-être un peu plus intéressant qu'un Rabiot, par exemple. Ouais. Voilà, ces trois-là, effectivement, pas du tout, je pense, le niveau de jeu défensif pour permettre à l'équipe de France de se libérer comme ça sur les côtés. Et c'est pour ça que quand on faisait nos 11, moi j'avais plutôt mis Lucas Digne que Théo Hernandez aussi. Ouais. Parce que je trouve que Lucas Digne est un meilleur défenseur que Théo Hernandez. Ce serait bien que les deux côtés se régulent. Après, le fait est aussi que côté gauche, c'est Mbappé qui va jouer.
Ouais.
Mbappé, il défend pas aussi.
C'est vrai.
Soit clair à ce niveau-là. Donc,
Dembélé lui l'a dit apparemment.
Bah, je pense qu'il a raison.
Bah oui, je pense.
En vrai, à ce niveau-là.
Ça, c'est ce que j'ai vu des stats de Opta qui étaient sortis
Mbappé
sur les tous les championnats européens, je crois, qui est le.
Je crois que c'était qu'en Espagne.
Non.
Qui était l'avant-dernier. Pour moi, j'ai vu pire défenseur.
Pour moi, j'ai vu sur tous les championnats européens, une grande partie au moins, c'était le. Il y avait un seul joueur qui faisait moins de contributions défensives que Kylian Mbappé.
Bah, c'est ça. Ouais. Voilà. Et il y avait des gardiens qui faisaient plus que lui. Voilà.
Donc ouais, c'était assez hallucinant à ce niveau-là. À voir s'il saura trouver cette facette de son jeu, se renouveler, même si ouais,
je crois pas une seule seconde, mais du coup le problème c'est que ça crée un déséquilibre qui est assez fort, donc voilà. Et puis c'est pareil, c'est que Olysée à gauche, du coup t'as personne qui défend, à droite Olysée c'est quand même pas c'est un joueur qui est volatile, donc il va aller un peu se placer partout. Et c'est ce que Deschamps a dit hier à Koundé, justement. Alors je sais plus quand est-ce que c'était dans le match, mais il lui dit en gros c'est pas Olysée qui va venir défendre, c'est pas Olysée qui va venir faire la couverture. Et donc voilà, donc ça fait des ailes effectivement assez peu complémentaires.
Ça peut être à double tranchant d'avoir
une
équipe aussi offensive. Après c'est ce à quoi on s'attendait, c'est le risque qui va être pris par l'équipe de France d'essayer de mettre des buts plus que d'essayer de ne pas encaisser, à mon avis.
Ouais, c'est ça, et puis on verra. Après, ça me donnera de belles rencontres, au pire.
Et ça peut démarrer dès le 16 juin, donc contre le Sénégal. On rappelle le groupe de la France, le groupe, c'est le groupe I, la France, qui sera donc.
Ça, ouais.
Ouais, c'est ça, un groupe I qui sera donc composé de la France, du Sénégal, de la Norvège et de l'Irak. Premier match contre le Sénégal, la prépa des Sénégalais, ça a fait une défaite 3-2 contre les États-Unis, et ils jouent ce soir à 1h du mat contre l'Arabie Saoudite.
Ceux qui ont envie de voir.
Voilà, ceux qui seront déter, je sais pas sur. Il y a des chances que ce soit sur l'équipe live souvent.
Une heure, je sais pas s'ils vont prendre le risque. Je sais pas, peut-être, ouais, effectivement.
Pas sur l'équipe 21, mais tu vois, sur l'équipe live, sur le site, il y a des chances, enfin, pour ceux qui ont l'abonnement, voilà. Mais personnellement, je ne me lèverai pas pour ce match. Mais Sénégal, premier adversaire duquel il faut se méfier.
Peut-être le plus dangereux du groupe. Alors la France a un peu le groupe de la mort, je dirais, avec l'Allemagne aussi, qui est un gros groupe. On y reviendra tout à l'heure, mais effectivement, le Sénégal, moi, on va y revenir aussi tout à l'heure. C'est un de mes outsiders de la Coupe du Monde. Je pense que c'est une équipe qui peut aller très loin, qui est très revancharde en plus. Ouais. Après ce qui s'est passé
à la CAN,
cette défaite face aux États-Unis, elle est pas non plus révélatrice de la rencontre, j'ai trouvé. Alors après, effectivement, les États-Unis ont fait un bon match. Moi, cette équipe du Sénégal, elle est tellement solide que ça va être aussi ça le marqueur pour l'équipe de France, parce que l'équipe de France peut, à mon avis, finir aussi troisième de son groupe, comme elle peut finir deuxième, comme elle peut finir première. Et je pense que c'est ce premier match qui sera vraiment le gros test
pour savoir.
Ouais, c'est ça, jusqu'où on va aller à la Coupe du Monde, quoi, parce que charnière impressionnante quand même avec Yakaté, le GOAT. Non, et puis sinon grosse armada offensive aussi. Et puis c'est une équipe qui a énormément d'expérience aussi.
Ouais, c'est clair.
Donc effectivement, un premier gros test.
Ça, c'est une équipe qui a fait une finale très récemment.
Donc, en plus,
qui a emmagasiné cette expérience, qui a la soif de revanche, comme tu me l'as dit, même s'ils l'ont gagné cette finale, mais après coup, c'est un peu tout ce qui s'est passé autour de la CAN. De toute façon, on en a déjà parlé, mais ouais, je suis d'accord. Va falloir un peu, contrairement à ce qu'on a fait contre la Côte d'Ivoire, être plus impactant physiquement, pas se faire impacter, au contraire, répondre vraiment dans les gestes, dans le duel physique, ce qui va être compliqué pour nos attaquants. Hein. Concrètement, c'est eux qui vont prendre le plus cher face à cette charnière, tu l'as dit, centrale du Sénégal. Donc ouais, ça va être peut-être le match clé. Si on gagne celui-là, les deuxième et première places sont déjà assurées à mon avis.
Oui, je pense, parce que je, enfin moi à mes yeux, Norvège, Sénégal, ça va se neutraliser. Mmh, ouais. Je pense. Je vois l'Irak terminer dernière du groupe avec 0 points. Donc, effectivement, c'est un peu le match pour terminer deuxième, voire premier. Peut-être même premier, en fait, hein, directement, parce que oui, t'engranges de la confiance. Il y aura peut-être une domination, effectivement, mentale sur la Norvège, si jamais, effectivement, il y a ce match nul entre la Norvège et le Sénégal. Donc, oui, c'est une rencontre clé. Et c'est un des gros tests. Et peut-être le plus gros qu'on aura avant les 16e ou les 8e.
Ouais, c'est parce que du coup, après, on jouera l'Irak le 22, lundi 22 juin. Ce sera le match à 23h, en effet, ce qu'on disait tout à l'heure. Voilà, l'Irak, là, normalement, victoire facile.
Oui. Bah après, c'est ce qu'on avait dit contre la Tunisie aussi en 2022. Mais bon, c'était un dernier match. On était déjà qualifiés, donc c'est très différent. Non, l'Irak... Après, l'Irak, c'est une équipe qui encaisse peu de buts.
Ouais.
Donc ça va être intéressant la Coupe du Monde quand même, parce que, effectivement, t'es dans un groupe où moi, je vois l'Irak, prendre 0 points, mais pas forcément prendre des raclés à chaque fois. Donc ça va être ça aussi, peut-être l'indicateur pour savoir qui va terminer 3e, 2e et 1er, si toutes les équipes se neutralisent un peu, se tournent autour.
La différence de but.
C'est ça, c'est la différence de but. Et donc qui mettra le plus de buts à l'Irak aussi.
Ouais, ça, donc l'Irak sur sa prépa, ça fait match nul contre l'Espagne, on l'a dit tout à l'heure. Et ils jouent eux aussi ce soir à 3h du matin contre le Venezuela. Voilà, pour nos plus grands fervents de foot, du beau match ce soir. Troisième match donc pour finir cette phase de groupe, ce sera contre la Norvège. Voilà, 21h, ce sera le 26. Là aussi, victoire impérative. On verra bien quand ce sera passé les matchs précédents. On peut imaginer que contre l'Irak, l'équipe sera pas la même que contre le Sénégal et contre la Norvège. On pourra faire tourner un peu.
Avec un Cherki titulaire, pourquoi pas, parce que je pense pas que Deschamps soit parti pour le mettre titulaire.
Non, ça a pas l'air, même au gardien, changer, mettre un Brisson Bas ou un Robin Risser. On verra ce qui sera fait, mais voilà, c'est le match pour faire tourner, c'est le seul match, je pense, pour faire tourner de la compétition. Donc on verra bien ce que ça donnera. Faudra faire attention à la Norvège, évidemment. On sait, il y a quand même de gros talents.
Ouais. Une armada offensive qui est impressionnante.
Voilà, on le verra bien. Il va falloir que notre défense soit solide, que Saliba tienne comme il l'a fait cette saison avec Arsenal.
Après, je pense qu'il y a moyen de faire quand même. Enfin, si tu mets un Digne et un Koundé, t'as quand même une défense qui est plutôt logique pour contrer cette armada offensive. Après, ça va aussi se jouer énormément dans les airs. Ce que disait Sorloth en interview aujourd'hui, ils ont quoi? Ils ont 6 joueurs qui s'approchent des 2 mètres ou qui ont 2 mètres. Ouais. Énorme, genre c'est vraiment.
Ils sont tous grands, ouais.
C'est des Goliaths, voilà. Donc il va falloir faire attention à ça aussi.
C'est très important, même sur les corners, ce genre de choses, bien communiquer, ne pas se faire avoir bêtement et sans vouloir après. On verra ce que ça donne. En tout cas, si la France, imaginons, finit première de son groupe, elle affrontera le troisième, soit du groupe C, soit du groupe D, soit du groupe F, soit du groupe G, soit du groupe H, pour le 16e de finale. A priori, ça annoncerait une victoire plus ou moins facile d'affronter un meilleur troisième dès les 16e de finale. Et après, si donc pour les 8e, la France jouerait soit le premier du groupe E, soit le troisième du groupe A, B, C, D, F.
C'est ça. Donc logiquement, France-Allemagne en 8e de finale.
Voilà, ça peut être directement un match très compliqué, un match charnière qui pourrait faire basculer l'épopée d'une équipe comme de l'autre. Très tôt, sortir dès les 8e, ce serait pour les deux équipes, je pense, une.
Ouais. Après, je sais pas si l'Allemagne s'attend à grand chose dans cette Coupe du Monde quand même.
Ouais, peut-être quand même plus que 8e de finale.
C'est ça. Mais après, en même temps, je me dis, si tu tombes contre la France, c'est pas déconnant.
Ouais, c'est vrai.
En vrai, je sais, franchement, moi, je serais allemand, je saurais pas du tout à quoi m'attendre, quoi. Et honnêtement.
Ah, j'avais vu que les Allemands, non, mais on fera après la rubrique un peu qui est-ce qu'on attend autre que la France. J'ai pas mis l'Allemagne.
Oui, moi non plus. Hein.
Voilà.
Ah oui, moi non plus. Non, clairement pas. Bah, pour le coup, je trouve le Sénégal plus cohérent en termes d'équipe que l'Allemagne. Même si l'Allemagne a des qualités, notamment dans les petits espaces et dans la surface de réparation, et on l'a vu en amical avec le but de Sané, qui est impressionnante. Ouais. Effectivement, mais je vois pas sur 90 minutes un 8e de finale de Coupe du Monde. Je pense que effectivement, même peut-être l'Allemagne peut prendre le bouillon face à cette armada offensive française et ça peut nous donner par contre un très beau match.
C'est clair, ouais, on peut avoir un remake un peu de ce PSG Bayern.
Ouais, carrément, ouais, pas, c'est ça. Voilà, un peu,
avec,
ouais.
avec beaucoup de buts, avec du suspense jusqu'à la fin. On verra ce que ça donnera si la France finit premier, si l'Allemagne finit première également de leur groupe respectif. Autre information, c'est que si, là aussi toujours des si, hein, évidemment, si l'Espagne finit première elle aussi de son groupe, la confrontation ne sera qu'en demi-finale. Voilà, ce sera peut-être une finale avant l'heure. Je pense que.
Ouais, c'est ça. On tombe dans la partie tableau de l'Espagne, quoi.
C'est ça. Donc c'est un peu ouais, c'est dommage. On verra ce que ça donnera. Après, voilà, une demi-finale contre l'Espagne. Est-ce qu'on pourrait dire que ça vaut une finale finalement, on s'en souviendra pas comme ça, mais sur le moment, je pense que c'est un peu ce qui, sur le papier, c'est ce qui est vu, en tout cas, c'est les deux favoris, la France et l'Espagne.
Ouais, carrément, oui, c'est sûr, quand on regarde les bookmakers, etc., oui, il y a de ça. Je pense que même dans le fond, après, je sais pas si moi, la France est mon favori perso. On va pareil, y revenir tout à l'heure, ouais, l'Espagne. Ouais. Oui, après c'est pareil, c'est qu'il y a énormément de joueurs aussi du 11 de l'Espagne qui sont remplis d'interrogations. Voilà, Nico Williams a pas fait une bonne saison, ouais. Laporte a pas fait une bonne saison, Robin Lenormand c'était plutôt moyen. Et c'est pareil, est-ce qu'une charnière Laporte, Cubarsí, ça va fonctionner? Il y a énormément d'interrogations autour de l'Espagne. Maintenant, effectivement, ça reste les grandissimes favoris, c'est la meilleure équipe du monde. Donc
numéro 1 à l'indice FIFA.
C'est ça.
Voilà, la France est descendue troisième après le match contre la Côte d'Ivoire, d'ailleurs, doublée par l'Argentine et l'Espagne. On va passer, je pense, sur du coup nos autres favoris. Non, avant, je vais te demander, du coup, tu voyais pas la France vainqueur au final. Est-ce que t'as quand même des attentes de si tu dis la France est éliminée avant tel stade, t'es déçu?
Avant les demi, oui, hein, je pense. Ouais, hein. Oui, clairement. Et puis c'est quand même la dernière Coupe du Monde de Deschamps, faut pas l'oublier. Et donc forcément, ça ferait tâche. Ouais. Parce que t'as la meilleure génération. Possible. Enfin, là, il y avait une stat effectivement qui était sortie sur les plus, je sais plus, il y a plus de 1000 joueurs qui vont au mondial. Ouais. Il y en a 100 qui sont nés en France.
Oui, c'est ça.
C'est énorme.
C'est vrai.
C'est énorme comme truc. Donc, t'as une génération qui est dorée. Déjà, moi, je suis assez critique sur ce qui s'est passé en 2022. En 2024 à l'Euro, même si on perd contre l'Espagne, c'est pas déconnant, mais le parcours, il est quand même assez poussif.
Ouais, bah, c'est zéro but dans le jeu avant les quarts de finale, je crois. Hein.
Oui, ouais.
C'est la stat.
C'est terrifiant, en vrai. Franchement. Donc, voilà, là, si tu sors avant les demi et si tu vas en demi en faisant une Coupe du Monde moyenne aussi, franchement, il y a de quoi être déçu.
Surtout avec cette armada offensive, la France qui est sûrement la meilleure attaque du monde.
Ouais.
C'est vraiment pas un risque de le dire.
Non.
On va enchaîner, parce qu'il est déjà 22 sur voilà nos petits favoris. Donc on se disait l'Espagne, est tous les deux assez d'accord. Voilà. Moi, j'ai rajouté aussi l'Argentine et le Portugal. Parce que l'Argentine, c'est quand même l'équipe quasiment qui était là en 2022. Hein, pour beaucoup, ils sont toujours là. Donc, faut pas négliger le cœur d'un champion. C'est ce qu'on dit souvent en NBA. Et je pense que c'est valable aussi à ce niveau-là. Et le Portugal, qui est aussi très fort, avec le milieu, qui est peut-être là aussi le meilleur milieu du monde. Hein, Vitinha, João Neves, Bruno Fernandes et Bernardo Silva. C'est du très très lourd et ça peut proposer de grandes choses. Est-ce que tu as d'autres équipes?
Moi, je mettrais pas l'Argentine.
Ouais.
Je pense que, en fait, si jamais l'Argentine finit première de son groupe et le Portugal premier aussi, en quart de finale, il y a un Argentine-Portugal.
Ouais.
Ça, c'est fou en vrai.
Ouais.
Et donc, il y a Ronaldo. Ça. C'est ça. Donc, et moi, je pense que le Portugal bat l'Argentine. Et je pense que le Portugal peut aller au bout. C'est vraiment, je pense, mon favori autre que l'Espagne.
Ouais.
Le Portugal, parce que t'as l'ossature du PSG, en fait.
C'est ça, ouais.
Simplement, t'as le meilleur milieu de terrain possible en sélection.
Nuno Mendes aussi.
C'est ça. T'as Nuno Mendes, Vitinha, et puis João Neves, donc.
Et t'as même Gonçalo Ramos.
Aussi, dans une moindre mesure, effectivement.
Derrière CR7, c'est ça, mais.
Donc, voilà, non, il y a vraiment, enfin, c'est le Portugal, c'est une grosse équipe, et puis, même en termes de jeunes, enfin, je sais plus s'il a été sélectionné, mais si Kenda, il est là, par exemple. À 18 ans, il sort d'une grosse saison aussi au Sporting. Enfin, il y a des offensifs à tous les étages, il y a des milieux à tous les étages, il y a des très bons défenseurs.
Ouais.
Moi, je pense que effectivement, cette sélection du Portugal, elle peut faire quelque chose.
D'accord, ouais. Il y a de quoi faire. On a des chances de les voir en finale contre la France ou l'Espagne. Du coup, ce qu'on se disait de l'autre côté du tableau. Est-ce que t'as des équipes qui peuvent créer la surprise pour toi, une ou deux équipes?
Du coup, le Sénégal.
Ouais.
Moi, je vois le Sénégal créer la surprise. Et puis le Japon.
Ok.
Je pense que le Japon, peut faire une très grande Coupe du Monde.
Ouais, je suis d'accord là-dessus. J'ai pas mis le Japon. Moi, j'ai pensé à un pays organisateur. J'ai pas su dire lequel, honnêtement. mais entre États-Unis, Canada, Mexique.
Ah, c'est risqué hein, quand même.
Bah ouais, mais je me dis, tu vois, c'est à domicile pour certains, bah ça peut. Il peut se passer quelque chose, je sais pas, honnêtement, je sais pas dire quelle équipe sortira plus du lot qu'une autre.
Ouais.
Si je devais mettre une pièce, j'allais plus sur le Canada, peut-être. Je suis pas un grand connaisseur de toutes les équipes, mais j'ai l'impression que.
Bah, Canada, je sais pas si Davis va revenir à temps.
Je sais pas.
Il est un peu blessé, Bombito est blessé aussi.
Ouais.
Donc, enfin, disons que c'est pas. Moi, ça me paraît être le pays le plus faible des trois.
Ok.
Mexique, plafond de verre très bas.
Ouais.
Donc pareil, mais équipe qui à mon avis ira au moins jusqu'en huitième. Et je pense que sur les pays hautes, oui, le favori c'est les États-Unis qui peuvent plutôt facilement aller jusqu'en quart de finale.
Ouais.
Et tomber sur l'Espagne là, c'est fou.
Ah, c'est marrant. Ouais. Voilà. Mais ouais, c'est bon pour une équipe surprise hein, un quart de finale. Je pense que je vois pas d'équipe faire comme le Maroc en 2022 aller chercher une demi-finale vraiment complètement inattendue à ce point-là. Je le vois pas sur cette Coupe du Monde. Moi.
Oh, moi, je plus.
Ah ouais?
Ah ouais, franchement, sur une Coupe du Monde en longueur comme ça, tu vois, bah, je parlais du Sénégal et puis surtout du Japon. En fait, c'est des sélections qui sont hyper, hyper physiques et qui sont hyper organisées en tant qu'équipe.
Okay, ouais.
Ce qui est pas le cas de toutes les équipes. Enfin, là, on parle des favoris. Dans tous les favoris qu'on a donnés, à part l'Espagne, il y a aucun bloc équipe véritablement, quoi. La France joue pas comme une équipe. Le Portugal non plus. Il y a énormément de difficultés collectives. Donc, en fait, sur toutes ces équipes-là, même l'Angleterre aussi, c'est un peu pareil, qu'on n'a pas cité. Mais du coup, toutes ces équipes-là, en tant que collectif, c'est plutôt compliqué. Et voilà, donc je pense que des équipes très physiques, très collectives, peuvent créer la surprise. Et ouais, pourquoi pas même atteindre une finale, quoi. Genre,
ça, moi, ce que je me dis, c'est que sur les autres équipes plus fortes, il y a plus de profondeur de banc. Et sur quelque chose qui dure comme ça, c'est là que ça peut être plus important, justement, de pouvoir davantage faire tourner tout en gardant une force dans l'équipe sans vraiment avoir une équipe B du 11 et de celle sur le banc et c'est pour ça que je vois moins de surprises moi.
Ouais non, je comprends en vrai ça se tient aussi mais je sais pas là on a vu la France effectivement contre la Côte d'Ivoire qui a pas du tout géré tactiquement son banc aussi. Il y a des équipes comme le Maroc du coup qui auraient pu faire partie aussi des favoris quand même parce qu'il est très très bon qui du coup de par ce côté-là collectif qui fonctionne mais qui est pas non plus au-dessus de l'individualité et puis cet aspect aussi banc plutôt moyen qui comme le Brésil en fait saute d'office des favoris.
Ouais, clairement.
Et donc c'est pour ça que moi effectivement enfin je pense que moi dans mes favoris il y aurait presque effectivement le Japon ou le Sénégal quoi.
Favori au titre carrément.
Ouais favori à une place en finale presque.
Okay.
Ouais, franchement.
Good guess, on verra ça ça rapportera sûrement beaucoup de points sur mon petit prono
C'est vrai qu'il y a mon petit prono effectivement.
Faut lancer sa ligue. pour finir, on se fait rapidement qui tu vois en meilleur buteur, meilleur passeur, meilleur buteur pour commencer.
Ah c'est rude. Ouais, je m'étais pas posé la question, peut-être Kane.
Ouais, j'ai noté Kane. Aussi Kane.
Franchement,
Kane, Mbappé est toujours là, hein, il peut planter.
Moi, j'y crois pas trop à Mbappé pendant la Coupe du monde, j'avoue.
Je vois plus un autre français.
Ouais.
J'ai du mal sur Molisé.
Ouais.
Qui pourrait faire beaucoup de buts, qui pourrait pas le planter. Voilà. Sinon, j'ai pensé à Haaland si la Norvège arrive à s'en sortir. Il peut planter, tu vois, facilement, je pense, des triplés sur plusieurs matchs.
Ouais, c'est possible, carrément. Après, la Norvège joue à deux attaquants avec Sørloth. C'est pareil, est-ce qu'on n'a pas un mec qui viendra lui voler ses buts?
On verra ça.
Mais ouais, je pense qu'en vrai, sur le côté meilleur buteur, ouais, peut-être Kane. Hein.
Ouais. On verra ça en tout cas et pour le meilleur passeur je pense que tu vas être peut-être d'accord avec moi, j'ai noté quatre noms. J'ai mis Olise, Cherki, Yamal et Bruno Fernandez. Est-ce que tu voudrais rajouter quelque chose, en enlever un?
Bah moi je vais un peu je vais faire un peu l'entonnoir.
Ouais.
Quand tu m'as dit ça, j'ai pensé direct à Cherki effectivement. Pourquoi pas, après Cherki sera pas forcément titulaire, donc
ça le souci
pas facile. Et sinon Bruno Fernandez encore une fois dans mon Portugal presque grand favori, ça tient la route là, effectivement.
Et tu mets pas Yamal du coup?
Je sais pas trop. Yamal en fait je me dis que si l'Espagne fonctionne pas collectivement comme elle l'a été en 2024 à l'Euro, justement parce qu'il y a ces questionnements individuels et sur la saison de certains joueurs, je me dis qu'il aura plus à faire en tant qu'individualité collective.
Ouais.
Et du coup, effectivement, alors soit par des passes, soit par des buts. On sait qu'il est capable de déclencher des buts de fou lui tout seul, de décanter un peu des situations aussi qui sont pas faciles. Donc je pense que l'Espagne va devoir aussi beaucoup se reposer sur les folies d'Yamal pour bien fonctionner. Donc je le vois plus meilleur buteur que meilleur passeur.
Ok.
Mais je pense qu'il fera un entre-deux, tu vois, un Westbrook.
Triple 20.
Voilà.
Il sera peut-être le joueur le plus décisif, du coup, avec le plus de goal assist.
Je pense, par contre, ouais, sur la Coupe du Monde, ça paraît assez vite. Okay.
On garde ça en tête et on retient ce qu'on se dit là. On fera les comptes à la fin de la compétition.
Dès la semaine prochaine, on va pouvoir commencer à... Parce que c'est pareil, Coupe du Monde assez difficile à lire. Donc, dès les premiers matchs, on pourra commencer
c'est,
à dire,
okay. C'est clair, on va avoir des opportunités, mais des pistes de lecture voilà, sur ce qui va se passer. 20h29, on va se laisser. Sauf si tu veux nous garder un peu de temps.
On peut parler vite fait NBA quand même.
Rapidement, bien sûr, si t'es pas trop pressé.
Quand même.
Parfait. Du coup, finale NBA, on en avait parlé rapidement la semaine dernière, il me semble. C'était le début, les Knicks contre les Spurs. Les deux premiers matchs se jouaient à San Antonio. Malheureusement, les deux premiers matchs ont été perdus par San Antonio. 2-0 aux Knicks ce soir, enfin hier soir plutôt. C'était le déplacement au Madison Square Garden sous les yeux de Donald Trump.
Qui a été bien hué. Voilà, c'est bien. Merci les New Yorkais.
À juste titre. Ouais, ça m'étonne pas des New Yorkais. Donc match 3 remporté cette fois donc par les Spurs, 2-1 dans la série, et match 4 s'y jouera demain soir au Madison Square Garden à New York. Tu m'as dit que tu avais vu les matchs?
Ouais, j'ai vu les trois. Bah, comme tous ceux contre OKC de la part des Spurs. On avait parlé du match 1 ou pas? Je sais plus.
Il me semble pas, non.
Si on doit parler de la série, effectivement, on a eu des Spurs un peu de choker au début, quand même. Premier match où tu mènes 15 points, tu mènes de 15 points, et puis au final, tu te fais rattraper. Ils finissent à 10 points d'écart.
Ouais, quelque chose comme ça. Il y a eu moins de 10 points, parce que tous les matchs sont finis à moins de 10 points d'écart.
Ok, je crois qu'il y avait un peu plus d'écart quand même que sur les autres matchs.
Ouais, c'est possible.
Il me semble. Enfin, en tout cas, tu t'es fait rattraper 15. Deuxième match. En plus, c'était chez toi. Deuxième match, c'est terrible. Alors après, à qui doit-on donner la faute? Voilà, Wembanyama, Castle.
Ouais, ça, sur cette dernière action, c'est assez compliqué quand même.
Je pense que ça fait partie aussi.
Le bas se joue pas là non plus, en fait.
Oui,
c'est
carrément.
C'est ça qu'il faut dire, surtout.
Moi, je dirais que c'est symbolique plutôt sur effectivement, les manquements collectifs des Spurs.
Il y a eu pile 10 points d'écart, t'as raison, 95 à 105 sur le premier match.
Ça veut dire que tu te manges un plus 25, c'est un peu relou. Donc toi, je sais pas ce que t'en as pensé de ces deux premiers matchs. J'ai vu un mec quand même qui a fait un pronostic assez marrant, c'est en gros, toutes les équipes perdent à domicile jusqu'au dernier match où les Spurs gagnent à domicile. Voilà.
C'est un peu le scénario pour qu'il y ait un Game 7. On les sent mal embarqués, mais j'ai pas pu voir les deux premiers matchs, j'ai vu celui d'hier soir, où quand même j'ai trouvé une combativité. On les sent revanchards, on sent qu'ils ont envie d'y aller avec parfois justement ce qui leur a fait défaut un peu toute la saison, mais ce qui fait aussi l'ADN de cette équipe, c'est cette jeunesse, ce manque d'expérience, cette envie de découvrir, envie de dire, où ils tentent des choses, ça passe pas tout le temps, mais quand ça passe, c'est super bien fait et ça marche très bien. Ce que j'ai moins aimé, c'était un peu la défense sur Josh Hart, qui m'a beaucoup étonné.
Qui a fait un match intéressant.
Ouais, surtout en première mi-temps, au premier quart-temps, c'est un peu lui qui laisse les Knicks dedans, alors qu'ils auraient pu prendre l'eau à 15-20 points d'écart même. J'ai trouvé ce choix assez étonnant. C'était Wemby qui défendait sur lui en plus, donc je sais pas si c'était si je me dis c'est les conseils de Mitch Robinson, mais bon.
Il a dû faire quelques changements, je crois, parce que effectivement sur les deux premiers matchs c'était vraiment un duel entre Carl Anthony Towns et Wembanyama, et ça a pas du tout marché.
Non, il se faisait bouffer.
Carrément. Donc ça a été assez compliqué. J'ai l'impression que là il a quand même changé de tactique.
Carter Bryant qu'on a vu dessus, Keldon Johnson.
Et ça a bien marché, Carl Anthony Towns a fait pas un bon match, après pas un bon match collectif aussi de la part des Knicks.
C'est ça, par contre ce qui marche bien aussi c'est le fait de couper Jalen Brunson qui fait pas une bonne série pour l'instant.
Le match d'hier soir, je trouve quand même.
Ouais, mais en fait si tu regardes les pourcentages, c'est pas excellent. Et sur la série, il me semble que c'est ça que j'ai vu, il tourne à 32% au tir en moyenne. Il est quand même à 27 points de moyenne, mais à 32% au tir, donc c'est-à-dire que beaucoup d'opportunités de mettre des points ont été manquées par Jalen Brunson, par le fait de pas faire de passe ou de prendre des tirs mauvais, je sais pas vraiment. C'est un peu pareil de pas faire une passe et de faire un tir mauvais, mais on m'a compris. Donc à ce niveau-là, ça marche bien de la part des Spurs. Donc voilà, c'était cet ajustement peut-être qu'il fallait faire sur 4 pour s'en sortir, pour pas prendre l'eau comme les matchs 1 et 2. Et c'est ce qui a été fait, donc la preuve que ça marche. Faut voir maintenant comment les Knicks réagir face à ça, parce qu'ils vont pas se laisser faire
à domicile en plus.
Ils vont pas se laisser faire sur cette tactique défensive et voir si on a un sursaut des New Yorkais.
On verra, franchement, moi je reste effectivement sur le pronostic du gars dont je t'ai parlé tout à l'heure, là, qui me va, franchement, ça peut être magnifique.
Ouais, c'est clair, je pense que tout le monde veut un Game 7 là-dessus.
Et je pense qu'il y aura un Game 7.
Ouais, il y a de fortes chances. J'avais un peu peur, en fait le match d'hier était un peu décisif, hein. 3-0, aller au Game 7, fallait vraiment donner, mais à 2-1, c'est largement plus faisable.
Bah, je crois qu'il n'y a aucune équipe de NBA dans l'histoire des playoffs. J'avais entendu cette stat-là qui a remonté à 3-0.
3-0, non.
Genre voilà, ils ont bien fait de gagner le match d'hier. C'est ça. Tant mieux.
En finale, il y a eu un seul 3-1 de remontée. C'est évidemment les Cavs en 2016, avec le block by James et le dagger de Kyrie Irving. On va voir ce que ça va donner pour ces Spurs. On les soutient, évidemment, j'imagine. Seul Paulin est fan des Knicks et
exactement.
Pas pour Victor Wembanyama.
Il est pas là, il avait qu'à être là, il aurait pu défendre.
Il est au Vietnam, il me semble, depuis un petit bout de temps, Paulin. Donc on lui passe le bonjour s'il nous écoute depuis là-bas, mais je sais qu'il bouillonne un peu à chaque fois qu'il regarde tous ces matchs des Knicks. Ses 13 victoires de suite, il a dû être refait.
Il a jamais vu ça dans sa vie de supporter des Knicks, même une finale NBA.
C'était pas arrivé depuis, c'était
27 ans.
Ouais, c'était 99, c'est ça, la dernière finale des Knicks. Et un titre des Knicks. C'est l'époque de Wolf Rozier, ça doit être 75, les années 70, quoi.
Ouais, il faut être bon en archéologie, quoi.
C'est ça.
Dépoussiérer.
Ils sont souvent présents au Garden, donc les consultants le disent un peu, ouais, Wolf Rozier fait le titre en 75, quoi. Ça me dit quelque chose. Donc pour cette série, on va se laisser là-dessus. 20h35, fin d'émission. On va vous laisser avec Imaginaire à 21h. En attendant, vous avez un peu de musique, comme vous avez l'habitude sur Radio G et le 101.5 FM. Nous, on se dit à la semaine prochaine et on vous souhaite une bonne soirée.
vous ayez entre 16 et 25 ans ou non, Génération, c'est l'émission qui vous éclairera sur tout ce qui concerne la formation, la mobilité et l'emploi pour les jeunes. Entouré d'intervenants et d'invités qui travaillent quotidiennement auprès des jeunes, on vous présente les différentes filières de formation disponibles sur le territoire et les dispositifs d'aide auxquels ils ont droit. Génération, une émission que vous retrouvez un jeudi sur deux sur Radio G 101.5 FM.
All of this.
Sometimes life can keep me down with a face all in the dirt. But if you feel that left behind, need to get up and go to church.
Big, slide into the mode. Time to drop a load. My life is going down here like some cardboard in the snow. My bank account is frozen. I don't think that I can get out this hole. Feel like the figure four leg lock, like the jury went away and then they came back deadlock. I can't move, I can't eat, I can't even breathe. Can't even buy a decent sack without the stems and the seeds. No trees, no peas to ease the stress of everyday living. But homeless people gotta suck it up wherever they live, in the unforgiving or the unwilling. Live a life of sinning and expect to be as pure as an infant in the beginning. But
what about repenting?
What about detention? What about you eating dinner in the devil's kitchen?
What about repenting?
What about committing the same sin over and over again and again and again and again and again?
Life is nothing. nothing but a dream, so peaceful and serene. Unless you're being evil, then you on the devil's team. I receive what you want to believe, but soon you'll have to sow those bad seeds. Any man can ask to get a pass or a cleansing of sin to grant another chance. Perhaps another glance of the light at the end of the tunnel. Talk to the coach and break out the huddle. Whatever should you fumble, your rebuttal should be subtle, because he who lives in the upper room is never gullible. As you survey the syllables and sentences, the question that I'm merely trying to pose is as simply as me saying,
what about repenting?
What about detention? What about you eating dinner in the devil's kitchen?
What about repenting?
What about committing the same sin over and over again and again and again?
Sometimes I can keep you down with your face all in the dirt. But if you feel that left behind, you need to get up and go to church.
Talk about it and do the shit. Pull up on your block and we shoot shit. Pull up on your bitch and I'm hitting it. Hitting on your bitch and I'm killing it. And I ride and I talk about it and do the shit. And I ride and I talk about it, just do the shit. And the little nigga with the rule, let me shoot it. And the little nigga with the rule, what? Little nigga, honey nigga, y'all. I'm fucking on your little bitty, y'all. Simmons never heal figure, y'all. South Atlanta, yeah, we coming up. Ooh, push your middle fingers up. Ooh, pour it in my double cup. Ooh, it's still no clip, double up. And I ride and I talk about it and shoot it up. Fuck little nigga, fuck a nigga up. Fuck cash up, getting mad for. And I ride and I talk about it and do the shit. Let's do this shit. Okay.
Radio G 101.5 FM.
Sweetie little Jean, where did you go? Everyone's been searching high and low, and your mother's worried sick. Dearest daddy's lost his grip, while the whole world's watching. Candlelight visuals being held in silence on the channel 4. Taken you for around a bit. He reached in the pocket.
said you might not believe this, little fellow, but it'll cure your asthma too. And I said,
look here, brother, who you dabbing with that cosmic debris?
Now what kind of a guru are you anyway? You can't help me out, so take your meditations and your preparations and ram it up your snout.
I got a crystal ball,
he said, and held it to the light. So I snatched it all away from him, and I showed him how to do it right.
I wrapped the newspaper around my head so I looked like I was beat. I said some mumble jumble. He couldn't even make a sound. I proceeded to tell him his future plan. As long as he was hanging around, I said,
the price of meat has just gone up and your old lady has just gone down.
Look here, brother, who you jiving with that cosmic debris?
Now is that a real poncho or is that a Sears poncho? Don't you know you could make more money as a butcher, so don't you waste your time on
me. Don't waste it, don't waste it.